Bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir en cet après-midi de Séba. L'hiver est arrivé. Il y a environ une semaine, nous avons déjà eu une tempête de neige, ou plutôt un peu de neige. Je dirais une tempête de neige, mais ce n'était pas grand-chose, cela a juste recouvert le sol. L'automne est donc presque derrière nous, et l'hiver s'installe doucement. Mais avant de commencer ce message, si vous pouviez choisir une pratique, réfléchissez-y, une pratique essentielle que vous aimeriez que vos enfants pratiquent pour le reste de leur vie, quelle serait-elle? Certains d'entre nous n'ont peut-être pas d'enfants. Imaginez que vous en avez. Quelle serait cette pratique que vous voudriez que vos enfants adoptent pour le reste de leur vie? Les parents dans l'auditoire pourraient immédiatement répondre, eh bien, je veux qu'ils vident le lave-vaisselle ou qu'ils fassent leur lit. C'est important, bien sûr. Vous voulez qu'ils le fassent. Vous voulez qu'ils le fassent toute leur vie. Mais que se passerait-il si cette même chose, mesdames et messieurs, dont nous parlons, incluait vos dernières paroles avant de mourir? Quelque chose de si important que vous voudriez l'inclure. Pensez à quelqu'un qui, au moment de mourir, n'a pas grand-chose à dire. Il pense peut-être à la chose la plus importante qu'il ait à dire, qu'il souhaite transmettre à sa famille, à ses amis. Quelle serait-elle? Une chose que vous souhaitez que vos enfants mettent en pratique, et vos dernières paroles avant de mourir? Nous savons que Dieu est aussi un père et qu'il a des enfants. Mes frères, juste avant de mourir, Christ a prononcé une dernière prière qui est rapportée dans les Écritures. Vous pouvez ouvrir votre Bible au chapitre 17 de l'Évangile selon Jean. À cet endroit, Christ a prononcé ses dernières paroles à son peuple. Dans cette dernière prière rapportée, Dieu a trouvé une phrase que nous allons examiner et qui sera notre thème aujourd'hui. Cette même phrase se trouve dans la dernière prière que Christ nous a donnée, qui est rapportée dans la dernière prière. De plus, Dieu l'a trouvée si importante qu'il l'a ajoutée à la prière modèle que vous et moi devrions pratiquer chaque jour. Cette même phrase, nous allons la lire maintenant, frères et sœurs. Dans Jean chapitre 17, et nous allons la trouver et la rechercher tout de suite. Reprenons au verset 15 du chapitre 17 de Jean, puisque vous y êtes déjà. Christ prit le Père et dit, Je ne te prie pas de les retirer du monde. Quelle déclaration de la part du Christ! Il a vécu dans le monde, il est prêt à partir, il est prêt à mourir. Et il prie le Père pour que son peuple d'alors et d'aujourd'hui ne soit pas retiré du monde. Il y a là une leçon pour nous. Mais que tu les préserves du mal. Que tu les gardes, que tu les protèges du mal. Il y a cette phrase, Mes amis, préserve-les du mal. Elle se trouve dans la prière finale, ce sont les mots importants que Christ a prononcés. Certains des mots importants lorsque vous lisez toute la prière. Il y en a beaucoup d'autres, mais cette phrase en fait partie. Passons au chapitre 6 de Matthieu, et je suis sûr que vous vous souvenez déjà que vous avez lu ce chapitre à plusieurs reprises, la prière modèle, ces mots, tout le monde, alors que nous passons au chapitre 6 de Matthieu et que nous reprenons au verset 13. Le verset 13 dit, Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et il continue, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Nous voyons ici une phrase très similaire, mes frères, délivre-nous du mal. C'est sur cette phrase que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Mes frères, Dieu seul a le pouvoir de vous délivrer et de me délivrer, mais il attend de nous une participation active. Il attend que vous et moi nous impliquions. Il est disposé à vous délivrer et à me délivrer. Nous avons vu que dans ses dernières paroles, Christ a prié le Père, et même une pratique que vous et moi devrions faire et prier chaque jour. Une phrase très simple, quatre mots, délivre-nous du mal. Maintenant, alors que nous nous concentrons sur cela, mes frères, sur la part de Dieu et notre part, il dit qu'il est disposé et qu'il est le seul à pouvoir nous délivrer, nous avons un rôle à jouer, et c'est ce que j'ai mentionné, c'est ce que nous allons examiner. Nous allons examiner la part de Dieu et notre part dans cette phrase, la délivrance. Réfléchissez-y. Le premier mot de la phrase « délivre-nous du mal ». La délivrance, mes frères, se fait en deux étapes, et notre rôle se fait également en deux étapes. C'est tout ce que nous allons examiner aujourd'hui, les deux étapes par lesquelles Dieu nous délivre, et il y a deux étapes dans le processus, deux responsabilités que vous et moi avons. Examinons la première, et je vais l'illustrer. Si vous regardez le mot « délivrer » au verset 13, je vais faire une illustration physique pour nous aider à comprendre ce que signifie réellement le mot « délivrance ». C'est la première étape. La première ici, la délivrance, tout le monde, signifie simplement sauver ou arracher au danger. Il n'y a rien d'étrange à cela, ni rien que nous n'ayons déjà entendu. C'est très simple. Lorsque vous délivrez quelqu'un, vous le sauvez, vous le soustrayez au danger. Maintenant, imaginez-vous à nouveau, parents, ici aux États-Unis, dans un scénario très familier qui se déroule quotidiennement pendant la semaine scolaire. Vous voyez ce bus jaune s'arrêter à l'arrêt de bus. Les feux rouges s'allument pour nos frères et sœurs d'autres pays ou d'autres parties du monde qui ont peut-être vu cela dans des films, etc. Mais un bras sort du bus avec un panneau rouge « Stop » et tout le monde doit s'arrêter, les voitures qui arrivent et celles qui se trouvent derrière le bus. Maintenant, imaginez qu'un enfant descend du bus et traverse la route, et qu'un passant, une voiture qui arrive, ne s'arrête pas. À ce moment-là, un inconnu voit ce qui se passe dans ce scénario, pour ainsi dire, ce qui se passe devant lui, et il attrape l'enfant et l'arrache à la route. Il l'attrape, il le sauve de cette voiture, de cette camionnette ou de ce camion qui arrive, peu importe ce qui arrive sur la route. On pourrait dire que cet enfant a été sauvé. Cette personne, cet inconnu, a sauvé l'enfant. Après cela, l'étranger poserait probablement l'enfant par terre et lui demanderait simplement « Ça va ?» Il regarderait l'enfant, le palperait pour s'assurer qu'il n'a pas d'égratignure ni de blessure, puis il chercherait peut-être les parents de l'enfant et continuerait son chemin. Mes frères, c'est ce que ferait un étranger, mais ce n'est pas ce que ferait généralement un parent. C'est la première étape. Il s'agit de sauver, d'arracher au danger. Mais il y a une deuxième étape, et quelque chose dans ce mot auquel nous ne pensons pas souvent. Quand on pense au sauvetage, on pense immédiatement à quelqu'un qui vient vous sauver ou vous arracher au danger, comme dans l'exemple que j'ai donné. Qu'en est-il de la deuxième étape ? C'est une étape importante sur laquelle nous voulons également nous concentrer aujourd'hui. Si vous vous trouvez dans le même scénario, exactement le même scénario, mais cette fois-ci, ce n'est pas un étranger, c'est votre enfant. Vous êtes là. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez la même voiture, le même camion ou la même camionnette arriver devant votre enfant et votre enfant traverser la route. Que feriez-vous? Vous feriez exactement la même chose. Vous courriez, vous attraperiez l'enfant, vous le sauveriez. Et puis vous feriez quelque chose que l'étranger ne ferait pas. Vous serreriez l'enfant contre vous et vous le prendriez dans vos bras. Vous embrasseriez cet enfant, vous le serreriez contre vous. Et c'est cela, mes frères, la deuxième signification, la deuxième étape de la délivrance. Cela signifie attirer vers soi. Considérez donc Dieu comme un père, un Dieu qui dit, Je te sauverai, je te délivrerai. Nous prions chaque jour pour cela, Christ a prié pour cela à la fin de sa vie, il a prié pour nous, pour notre délivrance, pour que Dieu nous délivre. Gardez cela à l'esprit, mes frères et sœurs. Il est important de garder ces deux idées à l'esprit pendant que nous abordons ce message. Lorsque vous pensez à « délivre-nous du mal », gardez cela à l'esprit. Il nous sauve du danger, puis il nous rapproche de lui. C'est ainsi que Dieu nous délivre. Il ne se contente pas de nous mettre à terre, de nous sauver et de nous laisser partir seuls. En fait, il nous rapproche de lui. Maintenant, que nous dit cette phrase, « délivre-nous du mal », elle peut nous dire plusieurs choses, mes frères, et dans le temps qui nous est imparti aujourd'hui, je vais passer en revue quelques points qui nous viennent à l'esprit, encore une fois, au sujet de Dieu qui nous délivre du mal. Il fait sa part. Nous avons vu ces deux étapes, mais que nous dit cette phrase? Tout d'abord, elle nous dit, mes frères, que le mal est réel. Si Dieu l'a inclus dans la prière modèle, qui compte 66 mots. Pensez à toutes les choses que Dieu avait à l'esprit. Chaque fois que vous lisez dans la Bible une liste quelconque, cela a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup de méditation à Dieu pour décider, qu'est-ce que je vais inclure dans cette liste particulière? Il y a beaucoup de listes. Pensez aux 10 commandements. Pour les réduire à 10 commandements, Dieu a passé beaucoup de temps à réfléchir aux 10 lois qu'il voulait que vous et moi comprenions, que l'humanité comprenne, mais plus particulièrement que vous et moi, qui vivons selon la voie de Dieu, comprenions et mettions en pratique. Il en va de même pour la prière modèle. Pensez-y, il aurait pu ajouter des pages et des pages à la prière modèle, mais il n'a pas décidé de le faire. Il a dit que 66 mots suffisaient. Et cette phrase, « délivre-nous du mal », il voulait l'inclure dans cette prière modèle qu'il veut que nous pratiquions chaque jour, car l'une des choses, mes frères, c'est que le mal est réel. Une autre chose est, qu'est-ce que le mal? Si nous y réfléchissons, dans ce message, je ne vais pas me concentrer sur toutes les choses que le mal est, mais nous voulons au moins réfléchir à ce qu'il est, à sa signification. Lorsque j'ai fait des recherches dans la Bible à l'aide des outils électroniques dont nous disposons, j'ai trouvé 569 versets qui utilisaient simplement le mot « mal ». C'est beaucoup quand on y pense. C'est beaucoup dans l'Esprit de Dieu, beaucoup de versets, beaucoup de choses qui parlent du mal. Mais pensez à tous les versets qui ne parlent pas ou n'utilisent pas le mot « mal », mais qui décrivent ce que nous devons éviter ou ce que les gens ont fait de mal. Ensuite, nous pensons aux milliers et milliers de versets de la Bible dans lesquels Dieu se concentre sur le mal, sur ce qu'il signifie. Dans l'Ancien Testament, le mot « mal », quand on regarde le mot « mal », on voit qu'il signifie « mauvais ». Tout ce qui est mauvais, nuisible ou gênant, quand on regarde à nouveau le mot « mal » en hébreu. Dans le Nouveau Testament en grec, il signifie également « mauvais »,« dépravé », »,« quelque chose qui est nuisible ». Pensez à toutes les choses qui peuvent causer du tort aux gens ou vous causer du tort, cela signifie également « destructeur ». Tout ce qui peut détruire, tout ce qui est destructeur dans notre vie, dans la vie des autres, c'est cela que signifie le mal. Quand vous regardez dans Matthieu, dans la phrase que nous lisons dans Matthieu chapitre 6, nous sommes toujours, frères, le mal peut aussi signifier délivrez-nous du malin, c'est-à-dire Satan. Pensez à toutes ces caractéristiques, il est à l'origine du mal. Il y a donc beaucoup de choses à réfléchir quand on regarde simplement le mot, en particulier la signification du mal dans cette phrase. Mes frères, le mal est tout ce qui nous éloigne ou nous détourne de Dieu, de sa vérité, de ses lois, quoi que ce soit. C'est la définition que je veux utiliser pour nous aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné, je ne veux pas trop m'attarder sur le mal lui-même. Maintenant, pourquoi ? Encore une fois, ce que cette phrase nous dit lorsque nous y revenons, c'est que le mal est réel. Nous avons examiné un peu plus en détail la définition du mal. Et puis, frères et sœurs, une autre chose est que nous avons besoin d'être délivrés. Vous et moi avons besoin d'être délivrés. Il est dit ici, délivre-nous du mal. En parlant de vous et moi, nous qui lisons cette phrase, nous qui sommes le peuple de Dieu. Pensez aux différents scénarios, aux situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver chaque jour lorsque vous vous rendez au travail, lorsque vous êtes assis au travail, lorsque vous vous rendez à l'école, où que vous soyez. Il existe des scénarios dans ce monde, comme nous l'avons vu dans Jean 17, où Christ a dit « Ne les retirez pas du monde ». Il y avait une raison pour laquelle Dieu voulait que nous restions dans le monde, mais que nous soyons délivrés du mal. Pensez à tout le mal qui nous entoure, aux choses que vous pouvez voir et qui peuvent causer du danger, de la destruction, aux choses qui sont mauvaises, ou aux choses que vous ne voyez même pas. Lorsque nous savons que c'est réel et que cela nous entoure, mes frères, nous réalisons la même chose que Christ a dite, « Délivrez-nous ». Nous savons que nous avons besoin d'être délivrés. Même vous et moi, tous ceux qui vivent au quotidien avec la nature humaine, nous savons que nous menons un combat. Nous combattons la nature humaine. Nous combattons les choses nuisibles, égoïstes et destructrices qui s'opposent à Dieu dans notre propre nature. Ce n'est donc pas seulement dans le monde, c'est aussi dans notre nature. Nous combattons cela, et lorsque nous en prenons de plus en plus conscience, nous réalisons que vous et moi avons besoin d'être délivrés. Encore une fois, si vous le voyez, si vous le réalisez à ce moment-là ou non, visible et invisible. Mes frères, nous avons également dit qu'une partie du rôle de Dieu est qu'il est le seul à pouvoir nous délivrer. Ce verset le dit clairement, « Délivre-nous du mal ». Passons au psaume 37. Le psaume 37 montre clairement que Dieu est le seul qui puisse nous délivrer. C'est très simple, mes frères. Nous le savons. Mais nous voulons insister sur cette simple phrase de quatre mots, « Délivre-nous du mal ». Si vous êtes là, dans le psaume 37, il est dit au verset 39, je vais lire deux versets ici. Le psaume 37, verset 39, dit « Mais le salut des justes vient de l'Éternel ». Nous pouvons dire la délivrance. Il est leur force au moment de la détresse. Cela signifie au moment où vous reconnaissez qu'il y a une détresse. Mais qu'en est-il des moments, frères, où vous ne le reconnaissez peut-être pas ? Il dit toujours qu'il est celui qui nous délivre. Et le Seigneur les aidera et les délivrera. Il les délivrera des méchants, des gens méchants, des situations méchantes, des scénarios méchants, des choses qui veulent, ce qui est dépravé, des choses qui sont destructrices, et même le méchant, mes frères, le malin. Et il les sauvera parce qu'ils ont confiance en lui. Ce verset nous montre donc clairement, une fois de plus, ce que Matthieu et Jean mentionnent, à savoir que c'est Dieu qui nous sauve. Passons au chapitre 4 de la première épître de Jean. Chapitre 4, verset 4. Un autre verset familier qui renforce ce point, mes frères. Que nous dit cette phrase ? Elle nous dit que seul Dieu peut vous délivrer. Voici un verset que vous et moi pouvons garder à l'esprit. Il est dit au verset 4, dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 4, où Jean parle de la venue des antéchrists, vous êtes de Dieu. Je peux vous dire la même chose, mes frères. Vous êtes de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu, mes petits-enfants. Il dit la même chose pour eux. Ce verset s'appliquait aux premiers frères de la première époque, Et il s'applique également à vous et moi. J'en comprenais. Il a écrit les paroles que Christ a prononcées dans sa dernière prière. Il comprenait que nous sommes les enfants de Dieu. Il comprenait ce que signifie la délivrance. Et ici, il dit, « Et vous les avez vaincus. » Il parle de tous ceux qui sont mauvais. Dans ce contexte, il s'agissait des antéchrists. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand. Vous devez comprendre cela et réaliser, frères, que Dieu est plus grand. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est quelque chose que vous et moi devons comprendre lorsque nous pensons à cette phrase de quatre mots, que Dieu est plus grand que le malin. Il est plus grand que tout le mal auquel vous êtes confronté, celui que vous pouvez voir et celui que vous ne pouvez pas voir. Il est plus grand que cela, plus grand que le malin, plus grand que les méchants. Pour tous les aspects du mal auquel vous pouvez penser, dit-il, c'est lui qui peut, qui veut et qui va nous délivrer. Mais dans notre esprit, nous devons le voir comme plus grand que ce mal. Parfois, lorsque nous sommes dans une situation difficile, nous nous concentrons davantage sur cette situation difficile. Nous avons peut-être peur de la situation dans laquelle nous nous trouvons et nous ne réalisons pas que celui qui veut nous délivrer, celui à qui nous avons adressé notre prière ce matin-là, délivre-moi du mal que je pourrais rencontrer, de la tentation que je pourrais rencontrer aujourd'hui, non seulement est capable et désireux de le faire, mais est plus grand que ce mal. Il est le plus grand, mes frères. Il est plus grand, comme il le dit, il est en nous. Dieu nous fortifie. Cela signifie que nous pouvons aussi faire notre part. Cela nous aide à réfléchir, frères et sœurs, c'est là où nous allons maintenant. Dieu promet la délivrance. C'est ce à quoi nous pensons souvent. Mais vous et moi, frères et sœurs, comme dans tout ce qui concerne les chrétiens, ce que nous faisons, Dieu exige notre participation. Pensez à tout ce qui concerne le christianisme. Nous sommes vivants, nous sommes des sacrifices vivants actifs. Cela signifie que nous devons faire quelque chose. Nous sommes vivants. Nous avons également un rôle à jouer dans ce verset, dans cette phrase. Lorsque nous voulons être délivrés, lorsque nous prions chaque matin, lorsque vous vous levez, délivre-nous du mal. Frères et sœurs, vous faites confiance à Dieu pour qu'il le fasse, pour qu'il accomplisse sa promesse, mais aussi pour que vous fassiez votre part, et il vous aidera même à faire votre part. Frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls dans cette situation. Mais comme je l'ai mentionné, nous avons examiné le rôle de Dieu, et il y a deux étapes, comme nous l'avons mentionné. Il nous sauve, il nous rapproche de lui, et ensuite nous avons notre responsabilité. Examinons la réponse en deux étapes de notre côté. Allons à l'Épître aux Hébreux. Vous êtes dans la première épître de Jean, quelques chapitres en arrière, et allez au chapitre 5 d'Hébreux, et nous reprendrons au verset 14. Hébreux chapitre 5, verset 14, et nous examinons la première étape que vous et moi devons franchir, notre responsabilité. Hébreux 5, verset 14 dit, « Mais la nourriture solide est réservée à ceux qui ont atteint la maturité. » Cela signifie simplement, mes frères, qu'en tant que chrétiens, nous devons grandir pour atteindre la maturité. Nous devons nous développer. Nous commençons à un certain moment, en apprenant la vérité de Dieu, en apprenant le mode de vie de Dieu. Nous buvons le lait de la parole de Dieu, et à mesure que nous commençons à nous développer, Paul, à travers les Hébreux, nous dit aujourd'hui que la nourriture solide, c'est-à-dire le steak, appartient à ceux qui ont atteint leur maturité, aux chrétiens mûrs. Comment devenir plus mûrs? Même ceux qui, par l'usage, en pratiquant quotidiennement cette prière, en faisant quotidiennement leur part, Tout le monde, par l'usage, ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. C'est notre rôle, frères et sœurs, de discerner le bien et le mal. Dieu ne veut pas que vous et moi fassions l'expérience du mal. Je me souviens d'un ami à l'université, qui n'était pas du tout religieux, mais je l'entendais souvent utiliser, ou paraphraser le verset de Thessaloniciens, en disant « Vous devez tout examiner et retenir ce qui est bon ». Dans son esprit, il pensait qu'on pouvait sortir et faire tout ce qu'on voulait, vivre toutes les expériences qu'on voulait, mais qu'à travers ces expériences, on découvrirait ce qui est bon, et qu'on pourrait alors s'y accrocher. Ce n'est pas ce que Dieu dit ici, mes frères. Dieu veut que nous discernions entre le bien et le mal dans notre vie sans avoir à faire l'expérience du mal. Vous n'avez pas besoin et vous ne voulez pas faire l'expérience du mal, mais en vivant notre vie dans ce monde, mes frères, nous pouvons apprendre, et comme Dieu nous protège du mal, vous pouvez commencer à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, et ce que Dieu veut que nous sachions, cette différence. Le christianisme est un processus d'apprentissage qui dure toute la vie. Adam et Ève ont échoué très tôt dans ce processus d'apprentissage, mais pour vous et moi, il s'agit d'apprendre dès nos débuts en tant que chrétiens novices à discerner le bien et le mal, et plus nous le faisons, plus nous grandissons. Au début, Dieu a dû nous montrer quelle était la différence entre le jour où vous et moi devons adorer. Nous ne connaissions pas ce jour. Beaucoup d'entre nous adoraient le dimanche et croyaient que c'était le jour où il fallait adorer. Puis Dieu nous a montré, il a dû nous montrer le discernement, nous donner le discernement que le sabbat, il n'y a rien de différent entre le sabbat en soi, le soleil se couche et se lève le matin. Dieu doit nous montrer que le septième jour était le jour où vous et moi devons adorer. C'est facile. Nous apprenons ce qui est bien et ce qui est mal, mais mes frères, il y a des choses dans notre vie, à mesure que nous grandissons en tant que chrétiens, qui deviennent plus difficiles à discerner. Est-ce bien ou est-ce mal? Est-ce bon ou est-ce mauvais? Allons au chapitre 4 du livre des Proverbes. Nous devons discerner, mes frères, entre ce qui est bien et ce qui est mal. Certaines de ces choses sont, comme je l'ai mentionné, faciles à discerner, et nous voyons qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles, mais je voudrais vous montrer, à l'aide d'une illustration, simple, en ouvrant le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 27. Je vais vous donner une illustration simple pour vous aider à réfléchir à la manière de discerner le bien et le mal. En lisant le chapitre 4 des Proverbes, verset 27, il est dit « Ne tourne ni ta main droite, ni ta main gauche, mais détourne ton pied du mal. » Regardons la première partie « Ne tourne ni ta main droite, ni ta main gauche. » Vos mains, mes frères, sont très similaires. Vous avez une main gauche et une main droite. Parfois, elles sont un peu différentes. L'une peut être plus habile. J'écris de la main gauche, je suis gaucher, mais je peux écrire de la main gauche ou, si je veux faire un croquis ou dessiner quelque chose, je peux le faire de la main gauche. Mais si je prends un stylo dans ma main droite, ce n'est pas pareil. Le croquis ressemblera davantage à celui d'un élève de CP qu'à celui que je ferai de la main gauche. Il y a donc des similitudes, mais aussi des différences. Quand je veux tourner une clé, j'utilise ma main droite. Quand je lance une balle, je le fais avec ma main droite. Il y a donc une différence entre la main droite et la main gauche. Mais mes frères, la nature humaine traite souvent le bien et le mal de la même manière. Nous les mettons côte à côte, presque comme ce que vous mettez dans votre main gauche ou dans votre main droite. Disons que je mets le mal, je dis que le mal est représenté aujourd'hui par une balle rebondissante, notre chien, il adore jouer à aller chercher, Vous lancez une balle et il la rapporte. Imaginons que je prenne l'une de ces boules, une boule rouge, et disons qu'elle représente le mal. Je la mets dans ma main gauche aujourd'hui, c'est une boule rouge dans ma main gauche, qui représente le mal. Mettons une boule verte dans ma main droite, qui représente le bien. Vous avez donc le bien et le mal. Vous pouvez me regarder, si j'avais ces boules dans ma main, vous diriez que la boule de gauche, la rouge, représente le mal. Et celle de votre main droite est verte, elle représente le bien. Vous pouvez facilement faire la différence entre les deux. Mais que se passe-t-il si je les échange et que je mets la boule verte dans ma main gauche et la boule rouge dans ma main droite? Vous diriez toujours que le mal est dans ma main droite et le bien dans ma main gauche. Mais si je les laisse là assez longtemps et que je commence à les intervertir, mes frères, avec le temps, vous pourriez commencer à vous demander, le bien est-il dans la main gauche ou dans la main droite? Vous pourriez être confus. Il est facile d'être confus dans notre esprit, mes frères, même en tant que chrétiens, entre ce qui est bien et ce qui est mal. Prenons un exemple dans Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Nous pouvons être confus même avec les choses les plus simples que nous pouvons discerner, mes frères, même si elles sont un peu plus difficiles. Ésaïe 5 verset 20 dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. À un moment donné, les gens savaient ce qui était bien, puis ils ont commencé à appeler le bien mal et le mal bien. Les gens peuvent être confus. Même vous et moi pouvons être confus. Ceux qui remplacent la lumière par les ténèbres et les ténèbres par la lumière. Ceux qui remplacent la mer par le doux et le doux par la mer. Nous avons simplement regardé ces deux boules et nous avons dit que nous ne serions pas confus, mais mes frères, nous pouvons être confus. Et je voudrais vous donner un exemple. Quand nous avons grandi en Afrique du Sud, je n'ai jamais vraiment. J'ai vu dans les films, encore une fois, comme le bus jaune que nous avons vu dans les films sur Halloween. Mais chaque année, et nous venons de passer Halloween, mes frères, et alors que je préparais ce message, j'ai lu quelques articles et j'y ai réfléchi. C'est quelque chose où les gens, toute la société, toute la culture célèbre l'horreur, les ténèbres et le mal. On a estimé que cette année seulement, aux États-Unis, tous ceux qui participent et achètent des babioles, des décorations, des bonbons, voire des cartes cadeaux, dépenseraient 13 milliards de dollars rien que cette année. Réfléchissez-y, mes frères, célébrez quelque chose que Dieu s'oppose. Il ne s'oppose pas aux choses qui se trouvent dans les jardins des gens, mais il s'oppose à ce qu'elles représentent, ce mal, ce sang. Mais les gens le célèbrent. Ils commencent à appeler le mal du bien. Ils célèbrent ce qui est effrayant, ce qui est destructeur, ce qui est perturbateur. Maintenant, vous et moi, notre réaction n'est pas d'aller courir sur les pelouses et de commencer à vandaliser les différentes décorations qui s'y trouvent. Oh, c'est tellement maléfique, je casse ce squelette sanglant, et vous devez l'enlever de votre pelouse. C'est maléfique. Non, ce n'est pas ce que nous faisons. Que faisons-nous? Nous pouvons discerner, mes frères, en utilisant simplement un exemple, que c'est un élément extrême, mais nous pouvons dire que c'est mal. Mais nous pouvons également réaliser qu'avec l'aide de Dieu, nous devons tous discerner entre des choses qui ne sont peut-être pas aussi évidentes, car c'est un exemple où la nature humaine, mes frères, rend bonne une chose qui est mauvaise, et nous voulons nous éloigner de ces choses. Passons au psaume 25, qui demande du discernement pour les choses évidentes et celles qui ne le sont pas. Psaume 25, et nous reprendrons au verset 4, où David demande à Dieu, « Montre-moi tes voies, ô Éternel. Enseigne-moi tes sentiers. Montre-moi tes voies. Je ne sais pas. Je ne sais pas nécessairement par moi-même, surtout dans un monde rempli de mal, que Dieu ne voulait pas nous éliminer, mes frères, mais nous pouvons demander, montre-moi tes voies, ô Seigneur, enseigne-moi tes sentiers. Il y a un enseignement, il y a un discernement. Chaque jour, lorsque nous faisons cette prière, nous pouvons réfléchir à notre rôle, simplement pour discerner, me montrer ce qui est mal, le discerner, savoir, conduis-moi dans ta vérité. Nous avons dit que le mal est tout ce qui nous éloignait de la vérité de Dieu, ce qui n'est pas la vérité. Alors, conduis-moi dans ta vérité, montre-moi, Père, et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je t'attends tout au long du jour. J'attends que tu m'aides, que tu m'enseignes, que tu m'aides à discerner. Alors, frère, nous discernons d'abord. C'est la première étape que vous et moi franchissons, demander le discernement et le mettre en pratique, comme nous le lisons dans Hébreux 5. Aiguisez vos sens, exercez vos sens, vivez une vie chrétienne, participez activement, observez, regardez. Et puis, mes frères, la deuxième étape consiste à prendre vos distances, à vous éloigner du mal. Nous avons vu dans Proverbe 4 qu'il est dit, « Ne te détourne ni à droite ni à gauche, éloigne ton pied du mal. » Dans notre esprit, nous ne devons pas les rapprocher comme votre main gauche et votre main droite et penser qu'elles sont similaires. Vous devez éloigner votre pied, vous devez mettre de la distance entre vous et le mal, et c'est la deuxième étape, et c'est là que nous allons passer un peu plus de temps sur ce que vous et moi devons faire, mes frères. C'est la deuxième étape pour vous et moi. Notre réponse est d'apprendre à craindre et à obéir à Dieu. Passons au proverbe. J'ai mentionné Hébreux tout à l'heure, cela me reste à l'esprit, mais revenons au chapitre 8 des proverbes, encore une fois, un verset très simple. Que pouvons-nous faire, vous et moi, vous tous? Quelle est notre responsabilité après avoir discerné, après avoir appris? Proverbe 8, verset 13 dit, si vous y êtes, Proverbe 8, verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Et cela continue avec une liste. C'est une liste à laquelle nous pouvons ajouter, lorsque nous parlons du mal, il y a une liste de plusieurs choses. L'orgueil. Si vous pouvez apprendre à discerner l'orgueil en vous-même, nous le voyons souvent davantage chez les autres, mais nous avons parfois du mal à le voir, et il est difficile de le discerner en nous-mêmes. L'arrogance. Et la voix du mal. C'est un résumé de tout ce dont nous avons parlé, mes frères. La voix mauvaise, vous et moi devons discerner entre la voix de Dieu et la voix mauvaise. Il faut toute une vie pour exercer nos sens afin d'y parvenir efficacement. La bouche insolente, dit Dieu, je la hais. Vous commencez donc à haïr ce que Dieu est. Si vous voulez aimer davantage la vérité, mes frères, comment pouvez-vous renforcer cela à travers cette étape? Plus nous haïssons le mal, plus nous nous en éloignons. Où allons-nous alors? Nous nous rapprochons de Dieu. Nous nous rapprochons de sa vérité, de sa voix. Nous commençons à aimer davantage la vérité. Plus nous haïssons le mal, plus nous commençons à aimer la vérité de Dieu, tout ce qui la concerne. À mesure que nous mûrissons, mes frères, nous apprenons à haïr le mal, et là encore, vous devez savoir ce qu'il est. Petit et grand. Les grandes choses et les petites choses. Nous ne haïssons pas les gens, nous haïssons les effets. Nous voyons ce monde destructeur, nous regardons ces choses et nous les haïssons. Nous ne les équilibrons pas dans notre main et ne pensons pas, oh, ce n'est pas si grave. Nous créons une distance, Nous nous en éloignons dans notre esprit et dans nos actions. Plus nous voyons clairement la destruction causée par le mal, mes frères, plus nous nous rapprochons de Dieu. C'est un processus actif. C'est la deuxième étape, celle où vous et moi craignons et obéissons à Dieu. Allons-y, nous sommes dans Proverbes chapitre 8. Allons au chapitre 1 des Proverbes et lisons le verset 33. Il dit, « Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera à l'abri du mal, de la crainte du mal. » Le mal a tendance, quand on regarde Halloween, ces films d'horreur. J'ai lu un article qui disait que toutes ces choses sur les pelouses des gens et dans les films, tout devient de plus en plus effrayant. Les gens veulent encore plus d'effrayant. Les choses effrayantes qui faisaient peur il y a 10 ans ne leur font plus peur aujourd'hui. Nous voulons détester la peur, mes frères, mais Dieu dit ici que si nous lui obéissons, si nous le craignons, nous serons en sécurité et nous serons à l'abri de la crainte du mal. Quelle position enviable, mes frères, alors que le monde qui nous entoure devient de plus en plus déplorable, de plus en plus mauvais, que vous et moi puissions en être libérés, à l'abri de cela. Plus nous haïssons le mal et plus vous et moi nous efforçons d'obéir à Dieu, de l'écouter, de lui obéir, plus vous et moi serons libérés du mal qui nous entoure. Mes frères, pourquoi Dieu nous délivre-t-il? Allons au psaume 91. Pourquoi nous délivre-t-il? Psaume 91. Et nous allons simplement lire les versets 14 et 15. Psaume 91. Parce qu'il m'aime. C'est-à-dire qu'il m'a obéi. Je le délivrerai. Je le mettrai en haut, parce qu'il connaît mon nom. Il sait que je hais le mal, et il s'est efforcé de m'obéir et de haïr ce mal. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Invoquez-le chaque jour, comme nous le prions dans ce verset, mes frères et sœurs. Je serai avec lui dans la détresse. Lorsque vous avez besoin d'être délivré, encore une fois, que vous le voyiez ou non, mes frères, une grande partie de la délivrance que Dieu accomplit pour vous et moi, mes frères, nous ne l'avons jamais vue. Nous n'en avons même jamais eu connaissance. Nous étions silencieux par crainte du mal, mais Dieu nous a quand même délivrés. Je le délivrerai et je l'honorerai. C'est une promesse, encore une fois, que Dieu fait. C'est pourquoi il nous délivrera lorsque nous choisirons de le craindre et de lui obéir, de mettre notre amour en lui, notre amour dans ses voies. Mes frères, ce message renforcera votre partenariat avec Dieu et renforcera vos prières, et il les changera. Si vous appliquez cela, ce que nous apprenons, juste à ces 4 petits mots que nous avons lus. Allons à la première épître aux Thessaloniciens. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Nous arrivons à la fin, mes amis. Que pouvons-nous faire de plus, vous et moi, lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous lui obéissons? En réfléchissant à ce que vous et moi pouvons faire ici, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22 dit, « Éloignez-vous de toute apparence de mal. » Vous ne voulez même pas que le mal apparaisse dans votre esprit. C'est souvent là que cela commence. Passons au chapitre 12 de l'Épître aux Romains. C'est souvent là que cela commence dans notre esprit. Il ne s'agit pas seulement de l'apparence lorsque vous vous promenez dans une épicerie et que vous savez que vous avez du mal à résister à l'alcool ou aux cigarettes. Vous voulez éviter ce rayon. Vous ne voulez pas que le mal apparaisse devant vous. Lorsque vous vous promenez à Amsterdam, vous ne voulez pas passer par le quartier rouge. Vous voulez l'éviter. Vous ne voulez pas vous mettre dans cette situation. Mais qu'en est-il de nos pensées, mes frères? Nous ne voulons même pas qu'elles apparaissent dans notre esprit. Romains 12, verset 21 dit, « Ne te laisse pas vaincre par le mal. Il est intéressant de noter que le mal est mentionné en premier. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Dans la nature humaine, le bien n'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit, mes frères. Dans la nature humaine, c'est souvent le mal qui vient en premier. Mais il est dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Vous savez qu'il viendra. Nous le lisons dans notre prière quotidienne, nous devons prier en sachant, mes frères, que nous avons besoin d'être délivrés. Mais il est dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il existe un antidote que vous et moi pouvons. Encore une fois, si nous discernons ce qui est mauvais et le chassons de notre esprit, nous le remplissons de quelque chose de bon, nous le remplissons de la vérité de Dieu. Remplissez votre esprit de la vérité, tout le monde. C'est ainsi que vous et moi vaincons. Il faut les maîtriser lorsque des pensées avec lesquelles vous savez que vous luttez vous viennent à l'esprit. Maîtrisez-les, surmontez-les, vainquez-les avec de bonnes pensées. Passons maintenant au chapitre 8 du livre des Proverbes. Proverbe chapitre 8, verset 6. Il est dit, écoutez, car je vais parler de choses excellentes, et l'ouverture de mes lèvres sera de choses justes. Car ma bouche dira la vérité, et la méchanceté est une abomination pour mes lèvres. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Il n'y a rien de pervers ni de tortueux en elles. Même si cela se trouve dans nos pensées, cela se manifestera également dans notre façon de parler. Plus nous remplissons notre esprit de la vérité de Dieu, mes frères, et plus nous la proclamons, moins il y aura de place pour le mal. Mes frères, voici les deux étapes pour vous et moi, discerner d'abord le mal, puis craindre et obéir à Dieu. C'est une double force. Cela renforce la vérité. Cela renforce notre relation avec Dieu. Pour conclure, mes frères, ce message délivrez-nous du mal est bien plus qu'une phrase dans une prière que nous récitons chaque jour. Il révèle une relation vivante, un partenariat avec Dieu et son peuple. Le rôle de Dieu est indéniable. Nous savons qu'il dit qu'il nous sauvera, qu'il nous protégera. Il sait comment délivrer son peuple d'une manière que vous et moi ne comprenons pas toujours, mais vous et moi avons également un rôle à jouer, un rôle essentiel. Nous devons apprendre à discerner le mal et à nous en éloigner. Nous craignons Dieu. Nous lui obéissons, et cela nous rapproche de lui. Vous voyez le lien, mes frères et sœurs. Ces deux étapes doivent aller de pair. Le rôle de Dieu dans notre délivrance ne s'arrête pas lorsqu'il nous arrache au mal. Lorsqu'il nous rapproche de lui, vous et moi devons faire comme un enfant. Pensez à un enfant. Si vous sauvez votre enfant, le père attrapera l'enfant, et l'enfant fera exactement la même chose parce qu'il est reconnaissant envers Dieu pour sa délivrance. Il s'agrippe à son père. C'est la même chose que vous et moi faisons, mes frères. Lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous discernons le mal, nous nous rapprochons de lui, et cette relation nous rend plus forts. Mes frères, voici une vérité étonnante. Plus nous restons proches de Dieu, moins le mal a de pouvoir sur nous. Plus nous craignons Dieu, moins nous craignons quoi que ce soit d'autre. Plus nous aimons la vérité, plus nous haïssons ce qui la détruit. Nous ne savons pas toujours quand Dieu nous délivre, mais il le fait. Il sait comment, il sait quand, et il sait exactement ce dont ses enfants ont besoin. Chaque jour, frères et sœurs, nous prions en suivant ce commandement du Christ, délivrez-nous du mal. Et chaque jour, nous vivons la réponse que Dieu attend de nous, à savoir discerner le mal, le haïr, lui obéir et nous rapprocher de lui. Car en fin de compte, la délivrance n'est pas seulement Dieu qui nous tire du danger, c'est Dieu qui nous attire dans son amour, dans sa vérité et dans sa protection.